Mettre fin à l'exploitation animale pour mettre fin à l'exploitation générale. Libre Radio, la radio des morsures qui change le lait en beau. www.libradio.org.
Bonjour, je suis super contente d'être là et de voir autant de monde, ça fait plaisir. Du coup, moi, j'ai pas du tout prévu de faire un exposé, enfin pas une présentation sur l'industrie laitière et les sanctuaires, parce que je pense que c'est plus important qu'on soit dans l'interaction, puisque je connais pas le bagage de chacun chacune. Et l'idée, c'est plutôt que ça soit parlant pour tout le monde, plutôt que je fasse simplement un tableau de la situation. Donc, est-ce que ça va pour vous? Si je fais juste vraiment un bref contexte de comment c'est actuellement pour les animaux en Suisse dans l'industrie laitière, puis après on ouvre les échanges. En fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé à militer en faveur des animaux et auprès des animaux, je me suis rendu compte qu'il y avait une image très idyllique de l'industrie laitière en Suisse. C'est vraiment un symbole fort, quoi, dans ce qu'on appelle la culture helvétique, et j'ai voulu me questionner là-dessus pour mettre en lumière la réalité des animaux, mais pas seulement, parce que j'avais à cœur de pas faire d'opposition entre les animaux et... Donc mon idée, en fait, c'était de montrer la réalité des animaux, mais pas seulement. Aussi montrer la réalité des éleveurs, éleveuses, qu'on a tendance à confronter avec les antispécistes. Voilà. Et donc j'ai cherché à comprendre leur réalité avant de porter un jugement sur leur façon de pratiquer. Alors dans ce sens-là, plutôt que de simplement lire des livres ou regarder des documentaires, j'ai voulu aller les rencontrer vraiment, eux, elles et les animaux. Et dans ce sens-là, mieux comprendre leur réalité concrète et parler depuis leur situation. Et donc dans ce sens-là, j'ai essayé de contacter tous les maillons de la chaîne, de ce système, depuis l'élevage jusqu'au grand lobby. Et comme ça, évidemment, on se rend compte qu'il y a des souffrances et des violences systémiques, en fait, quasiment à chaque échelon. Et donc, pour que ça soit un peu rendu concret, mon idée, c'était de rédiger un livre que j'ai ici. Je peux vous le passer après si ça vous intéresse. J'ai beaucoup évolué dans ma façon de voir les choses depuis que j'ai écrit ça en 2017, parce qu'à l'époque j'étais encore peut-être un peu naïve et je pensais que simplement en faisant de la sensibilisation auprès des gens, les choses s'amélioreraient pour les animaux, et c'était pas le cas, bien évidemment. Voilà, donc si vous voulez jeter un œil, mais sachez qu'il y a des choses qui ont bien évidemment évolué. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, pour les vaches, pour les chèvres, pour les brebis, la réalité aujourd'hui, elle est industrielle et elle est, même en Suisse, catastrophique, parce que par principe, voilà, elle est catastrophique puisque ces animaux sont mis au monde en Suisse comme ailleurs dans le monde pour être exploité et ensuite abattu. On ne peut pas parler d'élevage éthique, même en Suisse, même dans un pays où la législation est soi-disant très stricte à ce sujet. Et je pense que pour toutes les personnes ici présentes, en tout cas, on est consciente que la législation n'est pas du tout un gage d'éthique, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans la conscience de la majorité des personnes en Suisse. Et donc c'était tout un travail, c'est encore un travail aujourd'hui, de casser le mythe du bien-être animal couvert par la législation. Donc grosso modo, mon idée là, c'était juste de planter ce décor et peut-être vous demander à vous qu'est-ce qui vous intéresse de savoir dans cette industrie, dans un premier temps. Et puis après, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut faire autrement aujourd'hui, notamment par le biais des sanctuaires antispécistes, des sanctuaires politiques pour les animaux qui deviennent une nécessité vitale et urgente.
Peut-être juste pour les personnes qui réalisent, les éleveuses qui réalisent que ils sont dans un truc de production industrielle et qu'ils sont là, ok, bah, en fait j'ai envie de changer, je réalise que je suis en train d'exploiter les gens, ça ne va pas du tout. Mm-hmm. Quel serait, du coup, l'accompagnement possible pour faire quelque chose?
Merci pour ta question. En fait, que ça soit dans un petit élevage ou un grand élevage, il y a des éleveurs et des éleveuses qui se rendent compte, de loin, pas toutes et tous, hein, mais qui se rendent compte qu'il y a un problème éthique dans leur façon d'être en relation avec les animaux. Et j'ai vraiment été très touchée par le discours de plusieurs de ces éleveurs ou plusieurs de ces éleveuses qui, en fait, se retrouvent coincées dans un système où la course à la rentabilité fait qu'ils et elles n'ont pas l'impression d'avoir le choix de faire autrement. Et pour ça, je pense qu'il y a des solutions concrètes qu'on doit pouvoir mettre en avant. Donc oui, une des solutions à laquelle j'ai pensé, mais j'ai de loin pas la vérité unique, hein. Une des solutions, c'est de les aider à transformer leur ferme en sanctuaire, justement, quand ces personnes ont un lien très fort avec les animaux avec lesquels ils et elles vivent. Et ça, c'est envisageable seulement s'il y a un soutien fort des citoyens, citoyennes qui vont participer en faisant des dons réguliers, par exemple. Mais il faudrait évidemment qu'il y ait des solutions plus globales ou politiques, si on peut parler politique. Ou par exemple, aujourd'hui, les éleveurs, les éleveuses sont subventionnés largement par ce qu'on appelle les paiements directs. C'est une subvention qui félicite le travail de la production. Et l'idée, par exemple, ce serait que ces paiements directs, plutôt qu'ils félicitent l'exploitation, eh bien, plutôt qu'ils félicitent la cohabitation avec les autres animaux. Je pense qu'on sera... Enfin, je ne sais pas si on sera d'accord, mais j'imagine que, de toute façon, le système politique actuel est très problématique à bien des niveaux. Et il serait vraiment nécessaire de produire un changement de système dans lequel c'est plus la rentabilité qui est félicitée, mais c'est vraiment le respect inter-espèces, quoi, entre les espèces. Après, il y a d'autres solutions aussi parce qu'elles sont individuelles. Il y a par exemple un ancien éleveur avec qui on est en contact qui a fait le choix de changer complètement de voie, lui. Et du coup, lui, il a abandonné carrément l'élevage pour devenir éducateur social. Donc, il travaille avec des jeunes en difficulté. Et lui, par exemple, a vraiment à cœur de démontrer que le système est problématique. Et donc, il est en train d'écrire un livre pour parler de la réalité de l'élevage, de son point de vue, et montrer qu'il n'y a pas d'élevage respectueux, en fait. Merci pour ton intervention. En fait, en Suisse, c'est très similaire. L'industrie laitière est subventionnée, je ne peux pas donner les chiffres, mais en grande partie... Parce qu'en fait, il y a toute une polémique autour du prix du lait. On a déjà entendu parler de ça beaucoup. C'est que pour que la production laitière soit rentable pour les éleveurs et les éleveuses, il faudrait que le litre de lait coûte un franc, enfin revienne un franc. Alors qu'aujourd'hui, il est environ à 47 centimes. Il est payé 47 centimes aux éleveurs et éleveuses. Et zéro aux animaux, bien sûr. Qui finissent toutes et tous à l'abattoir. Hein. Donc il y a effectivement un gros problème d'équité à ce niveau-là aussi.
Oui. Je trouverais intéressant de... T'es d'accord de parler du début un peu de l'industrie laitière en Suisse, comment ça... On en a arrivé à autant, à une massification de production du lait. Mm-hmm.
En fait, le fait qu'on consomme aujourd'hui autant de produits laitiers, c'est pas du tout ou très peu lié à la tradition culinaire. Parce qu'en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, on consommait un peu de beurre et un peu de lait, mais surtout dans les campagnes. En fait, avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des lobbies qui sont nés, parce que pour soutenir les soldats qui partaient en guerre, on a inventé ce qu'on appelle le lait condensé sucré. Vous voyez ces tubes-là. Et en fait, l'idée, c'était de les alimenter comme ça parce que c'était très, très riche en nutriments et puis facile à transporter. Et à partir de là, certains lobbies, dont Nestlé, très clairement, ont tiré profit de cette opportunité. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu véritablement des campagnes dans les maternités et dans les écoles, notamment, avec le message politique qui était de dire maintenant que la guerre est terminée et que on... maintenant que la guerre est terminée, on va nourrir à nouveau la population de manière abondante et riche. Et la solution, c'est le lait et les produits laitiers, quoi. Donc là, c'est devenu véritablement une campagne. À partir de là, c'est devenu une campagne marketing où vous avez déjà peut-être vu ces images d'enfants à qui on servait un verre de lait à chaque fois aux pauses. Voilà, c'était un moyen de pallier aux carences nutritives et c'est devenu un véritable business à partir de ce moment-là. Ouais, l'idée c'était de montrer que les politiciens se faisaient du souci pour sa population et l'idée c'était de dire, bah voilà, chers enfants, pour devenir peut-être de futurs bons soldats, il va falloir que vous soyez forts, quoi. Et donc, il faut avoir des os solides en consommant beaucoup de lait. Il y a eu toute cette propagande qui a été menée. Voilà. Là, donc c'est vraiment pour simplifier, mais il y a un livre qui parle très bien de ça. Si vous voulez, je peux vous donner après la référence. C'est « Lait, mensonges et propagande », où on parle vraiment de tout ce mensonge qu'il y a autour de cette sacralisation du lait. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il y a des liens non seulement entre le corps médical... je vais reprendre peut-être les choses dans un autre ordre. Il y a un livre très important que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Sorcière » de Mona Chollet. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup appris et qui explique les liens entre le patriarcat et le corps médical tel qu'on le connaît en Occident. Et en fait, le fait que les femmes aient été, par exemple, véritablement pourchassées pour leur connaissance sur la santé, par exemple, c'était un moyen de les désapproprier de leurs connaissances et faire en sorte que ce soit plutôt des hommes médecins qui récupèrent ce bagage-là. Et c'était un moyen aussi de déresponsabiliser les familles de ce qu'on appelle la santé, notamment. Donc les connaissances qui se transmettaient, par exemple, par ces femmes auprès des enfants et auprès des autres mères, elles ont été appropriées par le lobby... pharmaceutique et médicale. Et aujourd'hui, on voit que de nombreuses familles sont très ignorantes sur les besoins nutritionnels des enfants, par exemple. Et souvent, les familles vouent une confiance inconditionnelle aux pédiatres et aux médecins, dont les intérêts aujourd'hui sont... Enfin, c'est plus du tout un secret. Les intérêts sont clairement économiques parce que les médecins sont formés dans des filières qui les vouent à une forme d'ignorance quand même. De sorte à ce qu'ils deviennent simplement des pourvoyeurs de médicaments et pas forcément des personnes qui vont traiter des problèmes à la racine. Et donc, pour revenir au lait, pour moi, ce qui paraît important, c'est que quand les lobbies sont intervenus dans la vie privée des gens, par le biais des politiques, on a commencé à faire croire aux mères qu'il fallait éviter de nourrir trop au sein, mais par contre nourrir avec le lait de vache parce qu'il était plus riche en nutriments. Et on voit d'ailleurs que aussi par rapport aux accouchements, je fais juste un parallèle par rapport à ce qu'on vient de dire, aujourd'hui les femmes, on les amène à accoucher dans des hôpitaux où véritablement on leur enlève toute forme de pouvoir et d'émancipation. En gros, on les couche quelque part et c'est le corps médical qui s'en charge. Et pour moi, ça va de pair avec ça, avec la mainmise du corps médical sur les individus en tant que tels. Et donc, on leur enlève véritablement les connaissances dont ils ont besoin pour s'émanciper. Merci. Oui, alors, clairement, quoi. Il y a ces liens qui paraissent évidents entre le sexisme, le spécisme et le capitalisme, par ce biais-là. Et ce qu'on vient de dire par rapport aux femmes et l'allaitement, c'est bien sûr valable pour les vaches, les chèvres et les brebis dans l'industrie laitière, qui n'ont pas la possibilité d'allaiter leur petit qui part à l'abattoir si c'est un mâle, par exemple. Pour que le lait puisse être bien sûr commercialisé pour les humains.
Je me demandais si tu pouvais faire un tour d'horizon des différents acteurs du spécisme vraiment liés à l'industrie laitière, donc les lobbies en fait, et puis quels sont un peu leur job de propagande et ouais, par exemple aussi par rapport à Swiss Genetics et tout ça.
Oui, je veux bien et tu complètes si tu vois que j'oublie des choses. Mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que dans les élevages, il y a des animaux mâles et femelles qui copulent et qui donnent naissance à des petits. Alors que la réalité, c'est que la très très grande majorité des animaux sont inséminés artificiellement, abusés donc. Et cette insémination, aujourd'hui, elle s'est industrialisée dans le sens où il y a effectivement un lobby très très puissant en Suisse, qui s'appelle Swiss Genetics, justement. Et c'est vraiment la maison fondatrice qui récolte les semences de certains taureaux sélectionnés génétiquement et qui va ensuite vendre ces semences aux éleveurs, aux vétérinaires, aux éleveuses, etc. pour faire en sorte que ça soit les races les plus productives qui soient reproduites en permanence. Et donc à partir de là, on va sélectionner les critères les plus pertinents pour la rentabilité et faire en sorte que ces vaches soient inséminées avec certains types de taureaux Swiss Genetics. Et ensuite, il y a tous les lobbies qui vont servir d'intermédiaire entre l'élevage et la consommation. Et là, il y a tous ceux que peut-être vous avez déjà vus, c'est Crémo, Elsa, Amy, les laiteries réunies par exemple, qui vont récolter en grande quantité le lait et qui vont le transformer pour les redistribuer au supermarché après. Et donc là aussi, on voit que les agriculteurs eux-mêmes n'ont plus aucune mainmise ou aucun pouvoir sur ce que devient leur produit. Et bien sûr, après, donc, il y a les supermarchés qui revendent tout ça sous couvert de publicité idyllique. Et on n'a pas que ça, il y a aussi le lobby qu'on appelle Swiss Milk ici, qui va faire de la propagande, notamment dans les écoles, en insistant aussi auprès des nutritionnistes sur le fait que les produits laitiers sont essentiels à la croissance des enfants. Il y en a sans doute d'autres encore, des lobbies, mais je ne sais pas si tu pensais à autre chose.
Du coup, comment est-ce qu'ils ont parlé de comment ils ont commencé à investir les écoles et s'il y a une résistance par rapport à ça?
Peut-être tu veux expliquer, toi?
Je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression en tout cas que Swiss Milk, c'était récemment, enfin pas récemment, mais d'un coup, ça a commencé, ils ont commencé à vraiment s'introduire dans toutes les écoles. Ils ont introduit chaque année dans des écoles primaires, peut-être secondaires, une journée où tout le monde, tous les enfants reçoivent un verre de lait, un flyer avec des jolies images de veau. Il y a souvent aussi des concerts avec des stars comme Bastien Becker qui viennent faire des concerts. Donc toutes les familles vont un samedi au marché, puis il y en a un concert, ils reçoivent des ballons. Il y a énormément d'argent mis pour que les enfants deviennent accros au lait. Et en fait, cette journée, si je ne me trompe pas, elle a remplacé la journée de la pomme. Donc avant, il y avait une journée par année où tous les enfants recevaient une pomme. Voilà. Mais je crois en tout cas qu'il y a des parents qui sont outrés de cette entrée en force dans les écoles de Swiss Milk sans que les enfants aient leur choix à dire. Et que maintenant, il y a des écoles qui essayent de lutter contre la venue de ce lobby, mais c'est la même chose en France avec le lobby de la viande Interbel. Donc ça doit aussi venir des parents en fait et des enfants. Parce que l'extérieur, ça semble un peu difficile de dire. Acceptez pas Swiss Milk, mais.
Et aussi d'ailleurs, ce qui est étonnant ou pas, c'est que ce lobby a donc carte blanche dans les écoles, mais quand des associations antispécistes cherchent à venir faire juste une journée de sensibilisation à la réalité des animaux, eh bien on leur refuse cet accès, sous prétexte qu'ils oseraient faire de la propagande auprès des enfants. Je ne me suis pas spécifiquement concentrée là-dessus, mais par exemple les vaches à hublot, peut-être que tu parles de ça. Oui, ça j'en traite un petit peu, ouais. Mais... Si oui.
Est-ce qu'on sait combien il y a de vaches aujourd'hui qui sont dans l'industrie laitière et combien brassent en fait Swiss Genetics au niveau, enfin combien de semences gardées dans leurs locaux?
Alors je connais pas tous les chiffres, mais alors en 2017 il y avait 525 000 vaches laitières en Suisse. dont 230 000 veaux mâles envoyés à l'abattoir, du coup, chaque année. Et chez Swiss Genetics, donc, où toutes les semences sont récoltées, il y a quelques 2 milliards par année et par taureau qui sont récoltés par Swiss Genetics, 2 milliards de francs. Donc. Et ces 2 milliards, bien sûr, ils s'expliquent par par le commerce des semences en Suisse, mais pas que, parce que Swiss Genetics exporte aussi dans tous les pays du monde, en Asie, en Amérique latine aussi. Il y a plein de choses à dire là-dessus, ça serait vraiment très complexe de tout expliquer, et je le fais volontiers, mais pour faire simple dans un premier temps, il y a eu je ne sais pas si c'est en 67, à un moment donné, ce qu'on appelle le pic laitier, et qui découlait directement du fait que la production s'était intensifiée et que du coup les éleveurs étaient subventionnés au quota laitier qu'ils produisaient. Et quand je dis pic laitier, c'était pic du beurre, en fait. Je crois que c'était appelé comme ça. Je pense que ce qu'il y a à comprendre à partir de ça, c'est que les lobbies, sachant que c'était une industrie rentable pour eux, pas pour les animaux, pas pour les éleveurs, pour eux, il a fallu faire en sorte que les gens soient de plus en plus accros aussi à ce produit-là. Et pour ce faire, les produits laitiers se sont vraiment inséminés un peu dans la vie de tous les jours par le biais du beurre, mais par le biais de nombreux autres produits dont on ne soupçonne pas qu'ils contiennent des produits laitiers, par exemple. Donc on trouve même des fois des produits laitiers dans des chips, enfin dans plein de produits de ce genre. Et c'est pas étonnant que le lait ait remplacé l'alcool dans les écoles, parce que dans le lait est contenu la caséine. Et la caséine, je ne sais plus si c'est une hormone ou une protéine, peut-être que quelqu'un d'autre sait.
Un fragment de la protéine, c'est la protéine dans le lait.
Voilà, je crois que c'est la protéine du lait qui est la caséine, qui est en fait véritablement addictive. Ce qui fait que plus on en consomme, même si on n'en est pas conscient, plus on est accro et moins on arrive à se passer de ces produits-là. Donc voilà, j'ai pas une réponse précise à apporter par rapport au beurre, mais je dirais que le processus, j'ai un peu l'impression qu'il est là, et que même si...
Puis aussi, ça, le fait qu'il y en ait partout, c'est pas forcément... Enfin, en plus que ça peut rendre vraiment très accro, c'est aussi que ça plante l'idée que c'est nécessaire. Maintenant, il y en a même, par exemple, dans les habits, il y avait une étude qui montrait que dans les habits de Kalida, ils utilisent la protéine de lait. Mmh. En fait, il y a tellement de lait que, au lieu de remettre en question l'exploitation des animaux, et de dire on arrête de. Là, on ne va pas inséminer ces vaches-là, on ne va pas utiliser des semences, on arrête de produire des animaux. En fait, on utilise tout le lait qu'on n'arrive pas à faire ingurgiter aux personnes humaines. Quoi. Mmh. J'ai l'impression que c'est aussi important de se rappeler que l'industrie laitière. En Suisse, on sait que le chocolat, c'est très connu et très réputé, mais que l'industrie laitière va main dans la main depuis le début avec l'industrie du cacao et durant le néocolonialisme, lactation dans les pays du sud avec l'exploitation des enfants. Donc depuis le début, en fait, il y a double exploitation, triple même, enfin,
ouais, que l'exploitation. Est-ce que ça vous va qu'on discute peut-être un peu des sanctuaires, enfin des perspectives de cette solution-là ? Ouais ? Ok, cool. Oui, parce qu'il y a une chose qui m'est apparue importante, en fait, depuis le début qu'on milite auprès des animaux, c'est qu'il y a, beaucoup de théorisation de l'exploitation animale, et c'est très important. Mais qu'en fait, concrètement, les animaux ont besoin de notre aide dans le quotidien et aujourd'hui, pas pour les prochaines 25 années durant lesquelles on espère peut-être un changement de conscience. Et dans ce sens-là, en fait, si on a à cœur de porter une aide et ce qu'on appelle la co-résistance concrète auprès des animaux, on doit pouvoir avoir un moyen d'action à leur côté aujourd'hui. Et les sanctuaires peuvent être une solution. Puisque sur des terres d'accueil qu'on s'auto-approprie ou qu'on va louer ou qu'on partage en communauté, ça, vraiment, les formes sont diverses. L'idée, c'est de créer des espaces d'accueil pour que les animaux qui ont échappé aux abattoirs et à l'exploitation puissent vivre dans le respect de leurs besoins fondamentaux et en étant le plus libre possible. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sanctuaires qui ont été créés un peu partout dans le monde par des associations ou des privés. Et vraiment, mon avis personnel, c'est que c'est absolument urgent qu'on puisse soutenir ces lieux et en créer le plus possible. Donc, c'est aussi une solution, comme je le disais peut-être tout à l'heure, pour d'éventuels éleveurs, éleveuses actuelles qui ont envie simplement de transformer leur ferme. Ouais. Comme par exemple un couple d'anciens éleveurs en Suisse allemande vers Zurich. Donc Yvonne et Tony qui étaient des éleveurs éleveuses laitiers dans un premier temps. Ouais. Et qui, avec la venue de leurs enfants au monde et puis une série de remises en question, ont transformé leur ferme en sanctuaire aujourd'hui. Voilà, donc ils servent vraiment ensemble d'exemple de comment ça peut être autrement. Et de par leur message qui a été rendu public, ils ont pu inspirer d'autres éleveurs, éleveuses à en faire de même. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus, heureusement, mais il en faudrait davantage, on le sait bien. Et puis des associations, bien sûr, comme 269 Libération Animale en France, ou le Vernou aussi en France. Dans tous les pays maintenant du monde, il y en a. Avec notre association Coexister, j'ai pris des flyers là, si ça vous intéresse, tout à l'heure. On a aussi... on vient d'ouvrir en fait un sanctuaire il y a un mois et demi. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut fonctionner autrement, quoi. Voilà. Juste encore peut-être une chose par rapport au sanctuaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les SPA, les refuges pour chiens, chats, lapins qu'on connaît. Mais très souvent, malheureusement, dans ces lieux, non seulement le spécisme est quotidien, parce que seulement certaines espèces sont protégées. Et le rapport entre les humains et les animaux est encore très hiérarchisé. Donc c'est des animaux qu'on va protéger et qu'on va simplement placer dans des familles, comme s'ils n'avaient pas leur propre choix non plus. Alors que les sanctuaires politiques ont cette vocation aussi de les reconnaître comme des individus à part entière, qu'on doit prendre en considération dans les choix qu'on fait. Non. Donc on ne les protège pas simplement, on cohabite avec. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaches produisent du lait seulement si elles ont mis bas un veau, donc comme les mammifères. Ce qui fait que si elles viennent de mettre bas un veau, en effet, elles auront du lait pendant un certain temps. Et là, l'idée, c'est peut-être de mettre d'autres veaux avec elles pour qu'ils les têtent. Il y a un sanctuaire à Berne qui a fait comme ça, avec une vache qu'ils ont récupérée, qui avait beaucoup de lait en trop. Et ils ont mis deux veaux avec elle. Et du coup, deux veaux ont pu être nourris comme ça. Et après, la lactation s'arrête. En fait, c'est l'insémination perpétuelle de ces vaches qui fait qu'elles sont toujours gestantes, donc elles ont toujours du lait. Mais en fait, du moment où elles arrêtent de mettre bas, après, la production s'arrête aussi. Donc, c'est juste une question de transition suivant quand est-ce qu'elle arrive dans les sanctuaires. Ouais, je pense que c'est ça.
Bah, en fait, souvent, quand il y avait aussi la Boucherie à Martigny, c'est un refuge qui accueille ces animaux de la boucherie. Il y a souvent, par exemple, s'il y a une brebis qui arrive... en même temps, on essaie de prendre aussi des bébés, même si c'est pas sa mère, et il faut aussi faire petit à petit, sinon ça, ouais, elle a trop mal. Mais après, le but, c'est pas que ça dure et puis que nous on puisse le boire, bien sûr. Donc il y a vraiment cette transition pour au mieux ses besoins.
Après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des espèces la plupart des espèces aujourd'hui ont été sélectionnées génétiquement pour être rentables pour les humains. Et du coup, par exemple, les moutons, aujourd'hui, on est obligé, même dans les sanctuaires, de les tondre parce que la laine qu'ils produisent pousse en permanence. Alors que à l'origine, les moutons perdaient leur laine quand ils muaient simplement. Et aujourd'hui, la laine est devenue tellement dense qu'on est obligé d'intervenir, malheureusement, pour les soulager. Mm. Pour rebondir sur ton exemple, il y a une, parce que avec notre association, c'est une de nos missions, c'est d'accompagner ces personnes dans ces transitions, donc ces professionnels de l'élevage, et on est en train d'accompagner une femme de 63 ans, donc elle est proche de la retraite, et elle a été éleveuse de vaches laitières toute sa vie, et elle est très très proche des animaux avec lesquels elle vit, et elle dit, moi c'est impossible que je quitte la ferme, mais par contre, je sais que je suis antispéciste, et je veux changer, et j'ai besoin d'aide, quoi. Et donc on l'accompagne dans cette transition, et c'est merveilleux, je trouve.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais est-ce que, étant donné qu'aujourd'hui, genre 95% des exploitations ne sont pas des vaches paysans, un truc hyper industriel, est-ce que vraiment tu penses que le mec qui a des cochons en caillebotis ou des poules en cage, il se sent vraiment proche des animaux?
Non, non, non.
Enfin, non, c'est là, clair. Enfin, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais
c'est clair. Oui, je pense que là, chaque cas est assez individuel. Il y a des éleveurs ou des éleveuses qu'on rencontre et qui sont clairement attachés et qui respectent fondamentalement, mais ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Et effectivement, il y a un certain nombre d'éleveurs ou de bouchers ou d'employés d'abattoirs qui sont complètement coupés de cette sensibilité-là. Ça, c'est une réalité. Et il y en a qui le disent pour se donner bonne conscience, qu'ils sont respectueux des animaux, mais on sait bien que ce n'est pas le cas, quoi. Peut-être juste pour rebondir du coup sur ce que tu dis là, nous, avec le sanctuaire aujourd'hui, ce qu'on apprend en fait au quotidien, c'est que les animaux, non seulement sont leur meilleure porte-parole, et qu'en fait, quand il y en a un qui va pas bien, la première chose à faire, c'est de l'observer et de l'écouter, lui, avant de chercher à le traiter. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, on change de rapport.
Oui. Je voulais juste rajouter, parce que je pense effectivement qu'on oublie quelque chose d'assez important, que nous, en tant que militants, on voit ces personnes comme des personnes qui sont violentes envers ces individus qui réduisent à état de machine. Mais bien souvent, ces personnes, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un gars qui voulait devenir éleveur, en fait. Et il faisait des études, mais lui, en fait, sa passion, c'était de vivre avec les animaux. Et il ne voyait pas d'autres perspectives que juste avoir un élevage. Du coup, il se disait, ouais, mais je peux avoir un élevage, ou je tue, mais genre une fois par an, et puis après, je fais des arbres et tout. Et moi, je connais tout ça, sinon, c'est un sanctuaire. Et le gars, il était, mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable. Et genre, il fait plein de recherches. Mais bien souvent, le but principal, c'est être avec des individus, c'est pas les réduire, les détruire, les tuer.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Là aussi, j'apporterai quelque chose d'un peu plus nuancé. Il y a effectivement des éleveurs que même j'ai rencontrés quand je faisais mon enquête qui disaient, mais moi, j'ai repris la ferme parce que j'aime les vaches et parce que on fait ça de père en fils, quoi. Sans vraiment remettre en question le rapport qu'ils avaient avec leurs animaux. Et très souvent, ils me disaient, mais quand on était enfant, on supportait pas de voir partir les veaux et les vaches à l'abattoir. Mais voilà, c'est le métier qui rentre, quoi. Donc, il y a effectivement des éleveurs, des éleveuses comme ça. Et il y en a d'autres qui choisissent ce métier vraiment en toute conscience. J'en ai aussi vu des personnes qui disaient, mais moi j'aime faire ça, j'aime même mettre à mort jusqu'au bout l'animal et puis le commercialiser et le manger après, quoi. Donc là aussi il y a vraiment des cas de figure très différents, je pense, hein, mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a ça aussi. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les sanctuaires aujourd'hui, c'est un peu comme un sas de transition, c'est-à-dire que pour certains individus, on peut offrir cet espace, et parallèlement, on doit continuer la lutte qui va justement s'opposer à toutes ces violences systémiques dont tu parlais, parce qu'on peut pas compter sur les exceptions pour changer le monde, ça c'est clair, quoi. Et puis et en fait, ça me fait penser que j'ai lu ce matin un article sur l'écologie radicale, justement. Et je lis la citation que j'ai trouvée super intéressante, qui rejoint ça, je trouve. Ça dit « Aujourd'hui, rien ne doit paraître moins opposé qu'un potager autogéré et une émeute de gilets jaunes. Faire de l'écologie suppose à la fois de cultiver notre autonomie et de détruire les bases du capitalisme. » Et à toutes celles et ceux qui maintiennent l'étanchéité entre lutte offensive et projet constructif, nous demandons, peut-être qu'après je te passe le texte sous les yeux, ce sera plus simple. Ok, ouais. Peut-on construire l'autonomie hors des champs de lutte et peut-on lutter sans chercher l'autonomie?
Il y a un documentaire qui s'appelle The Last Pig, qui en tant qu'antispéciste radical peut être un peu dérangeant sur certaines choses. Mais du coup, c'est l'histoire d'un éleveur, un petit éleveur bio, avec des cochons en plein air, qui décide d'arrêter l'élevage. Et en disant que ça fait 10 ans qu'il élève des cochons, qu'il les aime, qu'il prend soin d'eux, qu'il regarde s'ils sont pas malades, s'ils mangent bien. Il fait ça 6 jours sur 7, et le 7e jour, il les emmène à l'abattoir. Et du coup, il trouve, c'est toute sa réflexion, en fait. Il trouve plus de sens à ça, il comprend pas, et du coup, il arrête. Mais ce qui peut être dérangeant, c'est que ce dernier cochon, il les emmène aussi à l'abattoir. Enfin, et du coup...
Et peut-être que, Valentina, tu me corrigeras, mais Tony, donc de cette ferme en Suisse allemande, disait dans un interview que quand on veut, quand on est vraiment convaincu que les animaux ne méritent pas de mourir et d'être exploités par nous-mêmes, on
trouve des
solutions. On peut. Ça semble assez simple, mais que lui, il n'a pas envoyé ses 67 vaches à l'abattoir. Du jour au lendemain, il s'est dit non, pourquoi est-ce que ces dernières, elles n'auraient pas aussi la chance. Donc je pense que effectivement c'est difficile, mais il ne faut pas oublier que quand on est vraiment sincèrement convaincu, on peut même pas tuer les animaux qui pourraient encore nous rapporter de l'argent.
Je pense que là aussi c'est du cas par cas, parce qu'il y a des espèces qu'on ne peut pas accueillir si on n'est pas nous-mêmes agriculteurs ou agricultrices. Donc par exemple les vaches, les lamas, les alpagas, on n'a pas le droit de les accueillir même si on a la place pour le faire. Donc par exemple pour les vaches, il faudrait vraiment collaborer avec d'autres sanctuaires qui peuvent accueillir des vaches, par exemple, si ces personnes qui veulent se réorienter veulent vraiment pas du tout garder leur ferme, quoi. Et puis après ça dépend, oui, si c'est quelques chèvres, quelques cochons, c'est possible de trouver des places, et autrement ça reste un problème d'ordre presque politique. C'est que les animaux qui sont déjà en vie aujourd'hui, qui ont été produits pour être exploités, qu'est-ce qu'on en fait si tout d'un coup il y a plusieurs éleveurs, éleveuses qui décident de changer? Il n'y a pas de solution unique, je pense. Je pense qu'on peut trouver un maximum de place pour ces individus, mais c'est possible qu'on n'y arrive pas aussi. Et l'idée des sanctuaires, c'est aussi que ça reste des lieux harmonieux pour les individus entre eux. Donc par exemple, nous, on sait déjà qu'on va pas remplir le lieu pour le remplir, parce qu'autrement, l'équilibre entre ces individus va être perturbé et ils vont revivre des situations où ils sont dans la survie plus que la cohabitation. Donc malheureusement, là, on doit aussi faire des choix, quoi, en tant que, enfin, quand on vit comme ça avec les animaux. Ouais, c'est pas simple, mais... Mais c'est vrai qu'il y a ce côté déresponsabilisant, je le vois déjà maintenant. Ça fait un mois et demi qu'on a ouvert et j'ai déjà eu des demandes de gens qui me disent « Ah, si vous prenez pas mon cheval, je l'euthanasie la semaine prochaine. » Enfin, ça arrive. Et malheureusement, on peut pas jouer toujours ce jeu-là. Et il y a des animaux tous les jours qui sont envoyés à la mort pour ces raisons-là, quoi. Malheureusement. On en revient à ce qui était dit un peu tout à l'heure, quoi. C'est qu'on est obligé de lutter contre les racines de ces oppressions, parce que ces espaces d'accueil, ils sont vraiment transitoires, ils sont fondamentaux mais transitoires, parce que tant qu'on n'aura pas mis fin à la production de ces animaux dans le cadre de l'élevage des animaux terrestres, on ne va pas pouvoir trouver des solutions pour chacun de ces individus. Et dans les océans et les mers, l'idée, c'est plutôt de forcer le retrait des espaces de chasse, etc., pour que les animaux puissent juste reprendre leur espace. C'est pas créer des sanctuaires, mais c'est qu'ils reprennent leur espace, quoi. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, nous, c'est une question qu'on se pose tous les jours, parce que je travaille pas, et puis j'ai pas d'emploi, disons, et puis j'ai pas envie de me remettre dans le système pour financer le sanctuaire. Donc on essaie de trouver des solutions quotidiennes pour sortir des circuits monétaires, où on va récupérer des invendus, justement, dans des marchés ou dans des magasins bio, etc., qui nous donnent des légumes pour les animaux gratuitement. Ou par exemple, des personnes qui cultivent, enfin qui récoltent le foin et qui nous les donnent en échange d'autres types de services. Donc on essaie de fonctionner comme ça. C'est pas possible tout le temps, mais au maximum. Et même pour les soins pour les animaux. On a des thérapeutes qui nous aident bénévolement pour les soigner, par exemple. Donc, ouais. Pas tout régler, mais une bonne partie. Ouais. Juste pour préciser les subventions. En fait, en Suisse, il y a différents types de subventions. Donc il y a les paiements directs pour la production de viande ou de lait et les subventions liées justement aux terres, à l'entretien entre guillemets des paysages et tout ça. Donc on peut continuer à toucher ces subventions si on ne tue pas des animaux, mais on ne touchera pas les paiements directs, c'est juste ça. Bon, merci beaucoup du coup, tout le monde.
Ouais.